France Bleu RCFM. France Bleu.
Qui est là?
Hal.
Hal qui?
Alors tout le monde, nous allons jouer le jeu de Top Top.
RCFM, 17h-18h, Marie Bronzy.
Top Top.
Toutes et à tous, soyez les bienvenus dans votre émission Toc Toc. Nous sommes ensemble jusqu'à 18h. Et ce soir, à l'occasion de la sortie d'un livre qui retrace la carrière d'un immense photographe insulaire, François Desjaubert, eh bien, nous consacrons cette émission à ce livre et à cette exposition photographique qui se tiendra du 15 au 31 décembre à l'espace Blanc Musique, 8 rue Emmanuel Arène à Ajaccio. 42 images qui racontent des années 70 à nos jours le parcours du travail de François Jaubert. Le livre est entre mes mains et je vous assure, c'est un cadeau de Noël absolument formidable. Bonsoir François Desjaubert.
Bonsoir.
Bienvenue. Est-ce que vous êtes prêt pendant une heure à recevoir des compliments?
Je crois que je vais m'y faire.
Alors on a tous été emballés à la rédaction d'RCFM par votre livre que l'on peut trouver d'ores et déjà aller dans toutes les bonnes librairies, également dans certaines grandes surfaces de Corse. Vous dédicacerez cet ouvrage à l'espace Blanc Musique, 8 rue Emmanuel Arène à Ajaccio, et puis peut-être que d'autres dédicaces suivront, nous l'espérons en tous les cas. Moi j'ai eu le plaisir de vous rencontrer il y a déjà quelques années, c'était pour un reportage à la télévision et j'avais déjà été sous le charme de l'homme et du photographe. J'imagine que ça a été un travail colossal pour réunir ces photos, 42 images, alors qu'il y en a plusieurs milliers.
Alors il y en a 196 dans le livre,
ouais.
Et 42 dans l'expo. Bon, il y a, je peux pas dire combien j'ai fait de photos dans ma vie. Hein. Je pense que c'est autour de 300-400 000, je ne peux pas savoir. Et effectivement, le premier choix a été terrible parce que moi, je n'avais pas du tout l'intention de le faire. Et c'est un ami qui m'a dit un jour, mais attends, tu es fou, il faut absolument le faire, je vais t'aider. J'ai dit, mais tu t'imagines un peu le travail que c'est, enfin, c'est de la folie. Il m'a dit, non, tu vas voir deux fois par semaine, on se voit le soir et on trie. Ça a commencé comme ça. Et au bout de deux ans et demi, on a réussi à trier 1500 photos.
Et pourtant, vous n'êtes pas du genre à déclencher comme un fou.
Ben non, mais 50 ans, ça déclenche pour vous.
Hein. Alors, il y a une chose que moi j'aime beaucoup dans votre travail, c'est que vous n'aimez pas trop le hasard dans l'art de la photographie. Une photo, ça se pense, ça se réfléchit, et lorsqu'on est dans l'urgence, puisque vous avez été photoreporter également, vous vous êtes très vite rendu compte que vous faisiez à peu près toujours les mêmes cadres. Donc la réflexion s'était faite en amont, au fil des années de travail. Vous préférez parler d'accident?
Ah bah oui, dans l'accident, le hasard n'est pas éliminé, mais enfin, il existe très peu. Et souvent, de l'accident naît quelque chose d'intéressant. On le voit pas seulement dans la photographie, mais regardez les savants et tout, ils cherchent quelque chose, et puis finalement, à un moment, ils trouvent autre chose. Ben nous, c'est un peu ça aussi. Donc, dans la photo, s'il y a un accident, c'est un peu voulu aussi.
Alors, je le disais, vous avez été photoreporter, vous avez connu la presse, et ce, durant quelques années. Du coup, ce qu'on va retrouver dans cette exposition et dans ce livre de photographie, c'est la grande histoire de notre île, mais également la petite histoire, à travers des métiers qui ont disparu, à travers des profils de villes ou de paysages qui ont été transformés au fil des années. Donc, c'est un peu notre mémoire que vous nous jetez à la figure, François Desjaubert.
C'est aussi un peu le propre de la photographie. C'est un des premiers rôles de la photographie, c'est-à-dire de garder la mémoire. Au moment où j'ai fait les photos, vous imaginez bien que je ne pensais pas qu'un jour je ferais ce livre. Hein. Donc c'est venu petit à petit. Mais effectivement, à la fois dans la presse, j'ai été témoin de beaucoup d'événements.
On en parlera.
Qui étaient des
parfois dures.
Des périodes chaudes à l'époque. Hein. Et puis aussi, j'ai rencontré des hommes et des femmes que j'ai photographiés dans leur vie de tous les jours. Ça m'intéressait beaucoup.
On peut dire que lorsqu'on est photographe, et surtout sur des actions un peu chaudes, un peu dures, comme nous venons d'évoquer, on pense à Aléria notamment, où là vous étiez très près, puisque vous étiez à l'intérieur de la cave, carrément, et on peut découvrir ces photos. Certains les connaissent évidemment, mais peut-être que le jeune public va les découvrir, certainement d'ailleurs. Est-ce que on a le sentiment de faire partie de l'histoire, ou on se rend pas trop compte ?
Alors d'abord, je voudrais dire que j'étais pas à l'intérieur. Ouais. Au moment de l'assaut, il n'y avait aucun photographe à l'intérieur. Mmh. On était tous là avant, mais au moment de l'assaut, non. Alors, en ce qui concerne... J'ai oublié votre question.
Est-ce qu'on se rend compte qu'on va faire partie de l'histoire, ou pas trop ?
Alors au début, si vous voulez, c'est le problème qu'il y a avec la presse, c'est que j'ai longtemps cru que j'écrivais l'histoire, et que donc j'en faisais partie. C'est prétentieux, mais quand on est jeune, on est prétentieux. Hein. Comme quand je travaillais pour Sigma, Sigma m'avait dit on doit être les numéro 1 tout le temps. Et moi, je croyais qu'on pouvait être numéro 1 tout le temps. Bah, c'est une erreur. Hein. Un jour, on est numéro 1, puis le lendemain, on est le dernier. Hein. Ça arrive tout le temps. Et donc, pour la presse, à un moment, je me suis rendu compte que finalement, j'écrivais l'histoire que d'autres racontaient. Je ne faisais que la transcrire, quoi. Donc ça m'a un peu contrarié, du coup, j'ai arrêté la presse.
C'est pas la seule raison pour laquelle vous avez arrêté la presse. On y reviendra, mais ça a été des moments difficiles.
J'étais fatigué.
Ouais, vous étiez épuisé.
Ouais, complètement. Et j'ai fait une dépression nerveuse. Mm. Donc, c'était le moment d'arrêter, quoi. C'est un métier de jeune, hein, la presse.
Et puis, surtout, il faut expliquer à nos auditeurs qu'ils le savent peut-être pas, c'est que lorsqu'on a l'œil dans l'objectif et qu'on est dans une manifestation où il y a des bagarres, où il y a des assauts, eh bien on n'est pas protégé. Parce que justement, on pense à son cadre, on pense à son travail.
C'est drôle que vous disiez ça, parce qu'en fait, on se sent très protégé par notre appareil photo. Curieusement, alors qu'on ne l'est pas du tout, bien entendu. Hein. Et donc,
vous êtes les plus vulnérables, normalement, les photographes de presse.
Oui, et puis de plus en plus, d'ailleurs. Mm. Parce qu'au début, avant, on était les amis de tout le monde, maintenant, on est l'ennemi de tout le monde. Autant la police que les manifestants, d'ailleurs. Hein. Donc, si vous voulez, il y a des lois dans la presse, mais encore aujourd'hui, je pense que c'est toujours pareil, c'est le placement. Bien se placer pour faire des bonnes photos. Et puis alors, surtout, ne pas faire des gestes brusques, ne pas courir d'un coup, tout comme ça, parce que ça attire les coups.
Vous disiez, je n'étais pas là durant l'assaut à Aléria, parce qu'il n'y avait aucun photographe, mais enfin, vous étiez là avant. Pareil, on ressent une tension, enfin, c'est quand on voit vos photos...
Oui, alors, je vais vous dire quelque chose. On ressent une tension peut-être encore plus que ceux qui sont les... Comment dirais-je ?
Les acteurs.
Les acteurs. Enfin, en ce qui me concerne, hein, moi j'avais un recul vis-à-vis de ces événements et je me rendais parfaitement compte de ce qui pouvait se passer. Donc,
vous n'étiez pas dans l'adrénaline de l'action, donc vous aviez peut-être ce recul.
Pas vraiment. Oui. Je vais vous donner un exemple simple. J'ai photographié un des matchs du Sporting, c'était, je crois, contre Karlsruhe-Siena. Et il y avait le stade de Florian était mais bourré de chez bourré, c'était impressionnant. Et on était à la 80e ou je sais plus, on était toujours 0-0. Et j'étais sur le bord, il y avait une tension, mais on ne peut pas s'imaginer aujourd'hui. Et je me suis dit, si l'arbitre siffle un pénalty maintenant pour Karlsruhe-Siena, il va y avoir des morts.
Alors, on se demande bien comment ça peut commencer une passion et toute une vie de photographie. On a demandé à Thomas Bronzini de nous prêter sa voix pour raconter le commencement de l'histoire de François Desjobert, photographe. Parce que je ne le savais pas, mais vous avez également une très belle plume, François.
Voilà.
Écoutez plutôt.
Si je suis né il y a belle lurette dans une rue de Paris, où déjà les acacias avaient été sacrifiés aux pavés et aux hommes pressés, 25 ans plus tard, par un beau printemps de 1966, ma vie allait prendre en toute inconscience un sens à la fois essentiel et intime. À cette époque, mon frère Noël faisait un tour du monde en bateau. Il fit l'acquisition d'un appareil photographique lors de son passage au Japon et me l'offrit à son retour. Pourquoi à moi ? Nous étions une grande famille et mes 7 frères et sœurs méritaient tout autant ce cadeau mécanique et magique à la fois. Je ne lui ai jamais demandé à quoi bon. Lui-même ne le sait peut-être pas. Cette boîte à fabriquer des rêves allait m'ouvrir les portes d'une liberté fondamentale, celle d'entreprendre.
qu'il y a les photos, il y a aussi les textes de François Jaubert qui nous racontent cette histoire de 50 années de photographie. Ce livre qui est publié aux éditions des Jaubert, on salue vos fils qui font un travail remarquable s'ils nous écoutent. Ça a commencé comme ça, par un cadeau. Mais entre le fait, parce que moi aussi on m'a offert un appareil photo et ça n'a jamais rien donné.
Faut croire qu'il était moins bon que le mien.
Mais non, mais entre le fait d'avoir un appareil photo et de l'utiliser, de s'en servir 50 ans plus tard encore, ouais, c'est toute la différence.
Bah, oui, mais bon, moi quand on m'a offert un appareil photo, il y a eu un déchirement de ma vie. Ça a été un voile qui s'est ouvert, quoi. Et je m'en suis jamais remis.
Pourquoi vous dites, je ne sais pas pourquoi il me l'a offert cet appareil photo.
Ça c'est du hasard par contre. Oui, là ça c'est vraiment du hasard. Donc quelquefois, à l'époque j'avais pas du tout l'idée de faire photographe. Bon, je savais même pas photographier, donc je risquais pas. Donc c'est vraiment, je sais pas pourquoi, c'est un hasard vraiment.
Parce que c'était un cadeau quand même onéreux.
Ah oui, à l'époque, oui, mais bon, il était marin, alors il était tout le temps dans son bateau, il gagnait un peu d'argent, mais il ne dépensait pas. Donc il est arrivé et il nous a fait des beaux cadeaux à tous.
Lorsque vous avez reçu cet appareil photo, tout de suite vous êtes sorti et vous avez déclenché, ou vous avez fait vos premières photos en famille, à la maison ?
Ben oui, c'est un peu ça. C'est-à-dire d'abord j'ai dit, tiens, comment ça marche ce truc, hein, je ne savais pas. Donc mes premières photos, c'était épouvantable. J'avais un ami qui s'appelait Michel Thomas, qui, quand il m'a vu les pellicules, les premières, il m'a dit, attends, c'est épouvantable. Il m'a dit, il faut que tu viennes me voir parce que ça ne peut pas continuer comme ça, il n'y a rien sur les négatifs. Donc voilà, ça a démarré comme ça.
Lorsqu'un grand photographe comme Michel Thomasi vous donne la chance de vous former, évidemment, ça aide au talent. On en parlera un petit peu plus tard de cette filiation et de cet héritage, de ce compagnonnage qu'il y a eu avec Michel Thomasi. Vous avez, après cette vie très tumultueuse de photo-reporter, pris la décision d'aller photographier cette Corse et ses paysages et ces gens que vous avez rencontrés. Et puis il y a eu toute l'aventure des cartes postales. Alors ça, c'est une aventure formidable, parce que vous le dites dans le livre, des étudiants se servaient de ces cartes postales comme marque-page, hors de Corse. Donc c'était le point de ralliement avec leur île. Certains prisonniers également affichaient ces cartes postales dans leurs cellules. Mais alors, catastrophe, pas de photos de mer.
Ben non, parce que...
Vous disiez à l'époque, j'étais incapable de photographier correctement la mer.
Ben, d'abord, c'est vrai.
Ça a changé.
Mais la première chose, c'est que ça ne me venait pas à l'idée. C'est-à-dire que quand j'ai dit je vais faire des photos, au départ c'était pour faire un livre.
Ouais.
Et dans ma tête, bon, la Corse c'est la montagne, quoi. Je veux dire, c'est aussi bête que ça, quoi. Donc j'ai fait des photos de montagne. Et quand j'ai décidé de faire, en fait, les cartes postales, ça n'est que de longs cartes postales, parce que c'était des photos qui auraient pu servir à bien autre chose que des cartes postales. Et quand j'ai décidé d'en faire une dizaine la première fois, il n'y avait pas de mer. Et effectivement, à l'époque, la mer, ça me posait problème.
Pour quelle raison, techniquement ?
Oh, j'en sais rien.
Réfléchissez, François.
Vous savez, je vais vous dire quelque chose. La première fois que je suis allé dans la réserve de Scandol,
oui,
je suis arrivé pour faire des photos, j'en ai fait aucune. Parce que c'est tellement énorme que j'arrivais pas à faire des photos. Je savais que les photos que je faisais, ça serait pas bon. Pourquoi ? Ben tout simplement parce que un photographe, c'est quelqu'un qui domine son sujet. Si vous dominez pas votre sujet, c'est pas la peine, vous verrez rien de bon. Il faut qu'il y ait un peu de vous dans chaque photo. Donc pour qu'il y ait un peu de vous dans chaque photo, il faut avoir digéré complètement ce paysage.
Mais ça vous arrive encore, hein ? Ça vous arrive encore de partir pour faire des photos et de ne pas prendre de photos. Oh, je le sais parce que je vous connais
souvent,
un peu.
Ça arrive souvent. Non, mais...
C'est l'histoire du chasseur de papillons.
Mais oui, mais bon, en même temps, vous savez, quelquefois, il faut que j'ai envie d'abord. C'est important. Hein. C'est comme tous les artistes. Hein. Donc, mais si j'ai envie, j'ai envie. Si j'ai pas envie, je vais pas me forcer non plus. Hein. Donc, voilà. C'est... Bon.
Et oui, il peut se balader des heures, François Desjaubert, et revenir bredouille sans aucune photo. Alors du coup, on a eu envie d'écouter Avileta et Montagnera, parce que elle illustre bien votre travail. On se souvient de ce livre aussi sur le GR20.
Tout à fait.
Très très beau livre que vous avez signé également. Et donc on s'est dit que c'était un joli clin d'œil.
Quelle usine escora sul maium sarà più appronta di un cabraio alla sciampia di calamana che avana al tuiaio dopo un tuin baragliana a beggi va la zora ma qui barra
avec un montagnard et la voix de Jean-Claude Aquavive. C'était un petit clin d'œil aux montagnes photographiées par François Desjaubert. Ce livre que nous vous conseillons vivement, 50 années en images, La Corse, signé François Desjaubert aux éditions Desjaubert. C'est un véritable bijou parce que, outre les paysages, il y a aussi les rencontres avec les femmes et les hommes de ce pays et puis toute notre histoire, hein, c'est-à-dire l'œil de l'artiste à travers la grande histoire et la petite histoire sur 50 années de notre île. Nous allons accueillir Michael Andréani. Bonsoir Michael.
Bonsoir Marie, bonsoir à toutes et à tous.
Alors avant ça, tiens, j'ai complètement oublié de dire qu'il y a une très belle préface signée Philippe Castelin, qui est un homme remarquable.
Ah, tout à fait.
Et qui vous signe une très très belle préface. Je n'ai parlé que de votre texte.
Ah, non, mais il a beaucoup de talent.
J'aurais pu parler de Philippe Castelnau également. Michael Andréani, nous, on s'est questionné. Alors, il y avait évidemment le frère Noël qui offre cet appareil photo, mais il y a aussi la première personne qui a donné des conseils à François Desjobert.
Eh oui, et j'ai décidé de m'attarder non seulement sur Michel Thomas, mais aussi sur sa famille, parce que c'est une famille de photographes à l'œil aiguisé. Je voulais donc faire un zoom ce soir sur trois générations de photographes corses issus de la même souche, donc les Thomas, et qui ont retracé l'histoire de notre île de la fin du 19e siècle à nos jours, avec un fond de plusieurs dizaines de milliers de photos et au bas mot. Hein. Alors, pour débuter dans la famille Thomas, je demande tout d'abord le père, Ange, fils de berger, qui va s'initier à la photographie dès l'adolescence après avoir rencontré un Allemand qui va lui laisser 400 plaques en verre réalisées entre 1880 et 1900, rendez-vous compte. À son actif, des milliers de clichés sur plaques en verre en utilisant les premiers Rolleiflex et appareils Leica avec notamment de sublimes images de son île qu'il a sillonnée en mettant en lumière la société corse d'alors, agro-pastorale, tout en s'intéressant au cinéma jusqu'au point de rencontrer le grand réalisateur et illusionniste parisien Georges Méliès.
Non, c'est pas possible.
Et oui,
c'est
et pourtant.
C'est fou.
Dans la famille Thomas maintenant, je veux le fils Toussaint, avec un parcours là aussi très singulier. C'est alors qu'il effectue son service militaire que le virus de la photographie va l'atteindre. Il découvrira à cette occasion la photographie aérienne Toussaint Thomas. Il va choisir la voie du photojournalisme, il va collaborer pour le magazine Radar, National Geographic, et rencontrera comme son père de grandes personnalités, des souverains même, comme Élisabeth II ou encore Mohamed IV. Rien que ça toujours. Et puis enfin dans la famille Thomas, je cherche enfin le petit-fils, Michel, qui lui s'intéresse aux dernières évolutions technologiques comme la macrophotographie et la photo subaquatique. Il va travailler pour Paris Match, le Provençal, l'Express, le National Geographic lui aussi, ou encore Archéologia. Il est attiré par le cinéma. Il va devenir d'ailleurs directeur de la photographie sur une cinquantaine de films, avec à la clé de nombreuses distinctions en France et à l'étranger, tout en travaillant pour des artistes, galeries ou encore des musées. Il faut savoir, Marie, et chers auditeurs, que son aïeul a créé un lieu dédié aux créations familiales. Le studio Thomas est situé de Cour Grandval à Ajaccio, malheureusement fermé aujourd'hui, même si le fonds Thomas existe toujours bel et bien sur le net. D'ailleurs, il n'est pas rare de voir certaines fois des établissements accueillir des expositions de temps à autre, avec des clichés notamment en noir et blanc saisissants d'une cité impériale, Ajaccio, en pleine mutation des années 50 jusqu'à aujourd'hui. Bref, en quelques mots, la dynastie Thomas y méritait bien ce petit et modeste arrêt sur image ce soir.
Merci beaucoup Michael Andréani. Michel Thomas, il vous a ouvert sa porte et vous a donné les premiers éléments techniques que vous n'aviez pas.
Tout à fait, ça a duré un an et demi à peu près.
Et mais donc, avec un garçon têtu comme vous, ça a fonctionné?
Ah non, mais moi je ne suis pas têtu du tout. Je suis têtu que quand j'ai envie de faire une photo et que ça ne se passe pas bien. Quoi. Sinon, non, je ne suis pas têtu, au contraire, j'essayais de... J'étais surtout ignare. Quoi.
Mais il a senti ce désir très fort.
Bon, on était très, très copains surtout, ouais. Donc ça, lui faisait... bon, ça me faisait plaisir, donc ça lui faisait plaisir. Et bon, on n'aurait jamais imaginé qu'un jour j'en aurais fait mon métier. Hein.
Même à cette époque-là, oh ben à l'issue non. d'un an et demi?
Non, parce que non, je faisais ça en amateur. Hein.
Il vous a encouragé, vous diriez?
Ah oui.
Qu'est-ce qu'il vous a apporté outre la technique?
Je pense que sans lui, je sais pas ce que je serais devenu. Il aurait fallu que je rencontre quelqu'un d'autre, c'est pas évident. Quoi.
Ouais.
Peut-être que j'aurais laissé tomber à force de ne pas pouvoir me servir de cette machine.
Hein. Ces qualités de photographe à Michel Thomas, elles étaient... Elles étaient techniques, surtout?
Ah oui, complètement. Et ouais. Puis bon, son grand-père, Ange, c'est un grand, grand photographe. Mm. Donc, quand on voyait les photos d'Ange, ça pouvait inspirer, ça pouvait nous aider. Même Ange a fait des cadrages d'une modernité qu'on ne s'imagine même pas.
C'est quoi un cadrage moderne? Parce qu'aujourd'hui, vous dites, moi, ouais. Je fais fi. De ce qui est à la mode ou pas, oui. Je fais fi de ce qui plaît, ou pas, je fais ce que
mode,
j'aime.
La mode, elle a un grand défaut, c'est que demain, c'est une autre mode. Hein.
Ouais.
Donc déjà, ça fait réfléchir. Non, moi, simplement, j'essaye de vivre dans mon époque. la modernité, c'est peut-être ça, c'est vivre dans son époque et pas s'occuper de ce qui s'est fait, de ce qui va se faire, voilà.
On dit que la plupart des artistes, est-ce que c'est le cas lorsqu'on est photographe, ne pensent pas, lorsqu'ils travaillent, au regard de l'autre, à comment l'autre va recevoir son travail. On le fait pour soi, au commencement.
Ça rejoint ce que je viens de vous dire.
Ouais.
On travaille pour soi. Moi, je suis très heureux derrière l'appareil photo. Quand je déclenche et que je sais que j'ai fait une bonne photo, parce que quand on fait une bonne photo, on le sait, hein, c'est immédiat. Alors après, le résultat, vraiment, bon, en général, on est sûr de nous. Hein. Eh bien, bon, c'est pour nous qu'on le fait.
À travers ce livre, 50 années en images, la Corse, est-ce qu'on peut trouver différentes techniques, François Desjaubert, et différents appareils photo au fil des années?
Oh, bah complètement, puisque les premières images pour les initiés, c'est du 6-6. Donc,
que ça veut dire?
Les 6-6, ben, c'est un format qui fait 6 cm sur 6 cm.
Tout simplement, voilà. Ben tout voilà. Simplement.
Et
c'est de l'argentique.
De l'argentique, en noir et blanc. Et puis la dernière photo, c'est le dernier appareil numérique en couleur. Donc, vous savez, je peux vous raconter une petite histoire?
Tout ce que vous voulez.
Eh bien, voilà, un jour, c'était dans les années 70-80, les appareils photo numériques commençaient à devenir automatiques. Et pour certains photographes, disons, pas les meilleurs, ils s'inquiétaient. Alors, ils disaient, ouais, mais tu te rends compte, dans quelques temps, les amateurs, ils font les mêmes photos que nous. Ils n'avaient pas tort, hein, d'ailleurs. Hein. Et bêtement, je lui ai répondu, mais t'inquiète pas, il faudra toujours faire la mise au point. Eh ben non. Aujourd'hui, même la mise au point. Donc, vous imaginez un peu la révolution qu'il y a eu dans la photographie. On s'imaginait jamais, moi, je m'imaginais jamais qu'un jour, la mise au point se ferait toute seule. C'était même pas possible. Donc, on est passé du 6-6. J'avais aussi une chambre photographique en 4-5 inches. 4-5 inches, ça fait 10 ou 12 centimètres. Donc ça, c'était fait pour faire de la publicité, des choses qui allaient devenir très grands en agrandissement. Et puis après, j'ai fait du 24-36 pour la presse. Et puis après, ça fait maintenant 10-15 ans que je fais du numérique.
Il n'empêche que le métier de photographe n'a pas disparu, que les photos d'art sont toujours, se vendent très très cher, et sont toujours, pour pas dire à la mode, mais en tout cas font partie de l'engouement en général.
On peut même dire que ça revient très très à la mode.
J'osais si pas saviez, le dire, j'avais peur.
Dans les pays anglo-saxons, la photographie, c'est un truc de fou, c'est... À New York, il y a des photos qui se vendent, mais c'est impressionnant. Mais ça va venir en France, vous verrez.
Ah non, mais en déco, en ce moment, c'est plus que la peinture. La photographie, c'est à ce point-là.
Et tant mieux. Hein.
Donc le numérique n'a rien changé, finalement.
Au contraire, c'est une plaisanterie de dire ça. Le numérique, c'est une technique, une trouvaille fabuleuse. Pour nous, photographes, c'est...
C'est un gain de temps pas possible.
Mais non, mais vous faites une photo et puis vous trouvez que la température de couleur n'est pas tout à fait comme vous vouliez qu'elle soit, et bien vous la faites exactement comme vous vouliez. Bon, il ne s'agit pas d'effacer des choses, ça c'est... N'importe qui fait ça, ça n'a aucun intérêt.
Et les filtres, tout ça, vous êtes pour ou contre?
Mais moi je suis pour et contre rien, je veux dire. Si dans une photo, il est utile de mettre un filtre... bien sûr qu'il faut le faire.
Maintenant, pourquoi on va se passer de la technologie?
Mais mettre des filtres pour des filtres, ou faire du télé pour du télé, ou du grand angle pour du grand angle, ça n'a aucun intérêt.
Ouais. Alors, il y a une chose qui m'intéresse beaucoup, moi, dans ce livre et dans les photos que j'ai pu voir, c'est qu'on se dit, alors évidemment, c'est super, c'est un témoignage de notre mémoire, de notre île, de ce qui a pu se passer, des événements, et puis, on le disait, de la géographie des villes, ou encore même des paysages, qui a changé. Mais il y a le point de vue du photographe. Parce que si c'est moi qui fais des photos pendant 50 ans, bien sûr, ça peut servir aux historiens ou à la police, ou je sais pas, vous le dites dans votre livre.
Oui, bien sûr.
Mais le point de vue de l'artiste, ce qui fait que ça nous déclenche une émotion de l'amour, de la colère ou de la nostalgie, ça c'est uniquement le regard de l'artiste.
Alors ça, d'abord il y a le cadrage de l'image.
Oui.
Regardez la une du livre, en radio c'est difficile de faire passer des images, hein, c'est pas vraiment...
Mais on peut essayer avec des mots.
La couverture du livre, c'est l'exemple type de ça. Ça c'est une photo que j'ai fait en 10 secondes.
C'est un groupe d'enfants sur le port de l'île Rousse, me semble-t-il.
Alors il se trouve que vous avez le groupe d'enfants, alors qui est dans une position tout à fait particulière, et puis vous avez tout l'arrière-plan. L'arrière-plan est aussi important que le premier plan. Et c'est ça qui fait une belle photo. C'est qu'à un moment, ça raconte une histoire. C'est à un moment de la vie. Voilà. C'est un moment de la vie et ça émeut les gens.
Alors là, l'histoire que ça nous raconte, ce sont des enfants qui sont très très souriants. On imagine que vous leur avez raconté une blague ou qu'ils sont en train de se moquer du photographe. Vous êtes au-dessus d'eux, c'est-à-dire que la photo est prise en contre-plongée. Et puis derrière, il y a cette perspective de la digue du port de l'île Rousse avec des adultes qui, semble-t-il, sont en train ou de travailler ou d'attendre un pêcheur
c'est
qui
ça.
Rentre.
C'est ça. Alors, c'est pas innocent, la contre-plongée. Alors, c'est une photo qui est, je vais vous dévoiler, hein, c'est une photo qui est faite au grand angle. En 6-6, et le grand angle et la plongée va accentuer l'impression de, comment dirais-je, pas de faiblesse, mais de tendresse. Je ne sais pas si vous vous rappelez les premières photos du Biafra il y a 30 ou 40 ans.
Bien sûr,
ça,
je m'en souviens, oui.
Et c'était toujours en plongée, oui. Qu'on voyait des petits gosses qui crevaient de faim. Ben, ce n'est pas pour rien. C'est que ça... Bah, ça participe à l'émotion.
Ça accentue en fait la petitesse de l'enfant et la fragilité. Et on a l'impression, nous, spectateurs, d'être là pour le protéger ou pour les protéger.
Il y a de ça.
Voilà, c'est ça l'effet de la contre-plongée. Alors, et puis, il y a aussi les personnalités que vous photographiez.
Bien sûr.
Dalida, Chirac, qui me viennent comme ça.
Dalida, c'était extraordinaire parce que...
Elle vous a fait du gringue un peu,
mais
non?
Mais pas du tout. Non, mais non, alors,
enfin,
une fille.
Les jambes nues.
Non, mais attendez. Non. Quand Sigma m'appelle au téléphone et qui me dit « Tu descends à Porto Vecchio demain, tu vas passer 3 jours avec Dalida », ah, j'ai dit « Attendez, vous rigolez ?» Non, c'est comme ça, c'est... Bon, ben, moi j'obéis, donc...
Surtout que François, il vit en binôme avec son épouse depuis de nombreuses années.
Et dans la voiture, je me dis « Mais qu'est-ce que... Pendant 3 jours, mais moi, Dalida, c'était pas du tout... Moi, j'étais dans le rock à plein, vous voyez, alors Dalida, c'était pas mon truc. Hein. Et quand j'arrive le matin à 9h... la porte est ouverte, je rentre avec ma voiture, je descends de ma voiture, et elle arrive devant moi, et elle me regarde, elle me fait un grand sourire, et elle me dit « Vous venez pour le poisson ?» Et j'ai dit « Non, moi je suis le photographe. » Voilà, et ça démarre comme ça. Ah bon, et tout, voilà. Et elle a été absolument charmante, et une fois de plus, je me suis rendu compte que dans la vie, les gens qui réussissent comme Dalida réussissait, c'est qu'il y avait quand même quelque chose.
Alors, pour Jacques Chirac, c'est l'inverse des enfants. Vous n'êtes pas en contre-plongée.
Ah, Chirac, non.
C'est pour montrer la grandeur du pouvoir. Alors, elle est géniale, cette photo, parce qu'elle raconte une histoire également. Il y a les gens qui sont donc assis sur le rebord de la fenêtre pour écouter le président. Ouais. Et puis, lui qui est pris comme ça par en dessous. Ouais.
Avec la bouche ouverte.
Avec la bouche ouverte.
Ouais. C'est tout à fait lui, ça. Vous savez, quand Chirac faisait des discours à la tribune, les gens ne le savent pas, ça. Mais il se tenait donc les deux mains sur le pupitre. Et il se levait sur ses pointes des pieds. Non, mais c'est drôle. Alors qu'il était très grand, il n'avait vraiment pas besoin de faire ça. Hein. Mais alors, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Hein. Je ne suis pas psychanalyste, mais il y a quand même quelque chose. Et il n'arrêtait pas de monter et de descendre comme ça, hein, pendant ses discours.
Après, vous êtes aussi un amoureux des métiers, et des métiers parfois qui, malheureusement, ont disparu. Ça, c'est quelque chose qui vous touche particulièrement.
Ben, c'est les métiers, les mains, tous ces gens qui nous ont rendu heureux parce qu'ils fabriquaient. Je trouve désolant que ça disparaisse. Et je ne suis pas en train de dire que c'était mieux avant, hein, loin de là. Hein. On est mieux maintenant. Hein. Mais c'est idiot de perdre ça. C'est idiot et pourtant ça va disparaître.
Ils sont magnifiques vos personnages. Hein. Que ce soit...
Ils participent à mes photos, hein, les personnages. Hein. Il y a très peu de gros plans dans mon livre, hein, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est plutôt des gens qui sont dans un milieu, quoi. Et parce que je trouve que c'est bien ça.
Et puis on n'a pas le sentiment qu'ils posent.
Bon, la plupart du temps, ils ne posent pas. Hein. La plupart du temps, la photo de couverture, ils ne posent absolument pas. Je passe, ils sont là, ça les fait rire de me voir, et hop, la photo est faite.
C'est un livre formidable, 50 années en images, La Corse, François Desjaubert, dans la collection La Corse au cœur, hein, tout comme c'était le cas pour le GR20. Et c'est aux éditions Desjaubert. Je rappelle qu'il y aura une exposition à l'espace Blanc Musique, 8 rue Emmanuel Arène à Ajaccio. Je vous propose de retrouver à présent Cécilia Canté. Bonsoir Cécilia.
Bonsoir tout le monde.
Cécilia, elle descend dans la... J'adore faire ce lancement. Cécilia, je l'envoie dans la rue.
Ah bon?
Ce n'est pas ma macrède, rassurez-vous.
On a toujours peur. Qu'est-ce que vous êtes allé demander aux gens?
Alors tout à fait, aujourd'hui je suis une fois de plus allée dans les rues de Bastia à la rencontre des riverains pour parler photographie. Alors vous nous en avez parlé tout à l'heure, effectivement aujourd'hui eh bien, c'est un peu plus facile de faire des photos, on est tous avec nos téléphones. Alors nous n'avons pas votre talent malheureusement, en tout cas me concernant.
Enfin, moi je sais, j'ai pas.
Mais moi non quand plus, même pas mal je vous rassure, on est dans la même équipe Marie. Et je voulais savoir surtout, outre le fait de prendre des photos plus facilement qu'avant, qu'est-ce que ça évoquait la photographie en soi avec les passants? Eh bien, c'était un très bon moment parce qu'il semblerait que ça rapporte toujours des souvenirs. Ils ont tous en tête un souvenir qui les a marqués, comme nous l'explique cette jeune fille par exemple.
Oui, c'est une photo avec mes parents, mon frère et mes grands-parents du côté de ma mère. On est en voyage à Pise mais cette photo, je l'ai affichée en très grand dans ma chambre. J'en imprime souvent et c'est vrai que ça fait toujours un moment de partage avec toute la famille.
Oui, bien sûr, comme pas mal de gens, je pense. C'est une photo de Noël, justement. Une photo de quand j'étais petit, devant la cheminée de mes grands-parents. Format papier à l'époque. À l'époque, il n'y avait pas de numérique. Donc, c'est une format papier en noir et blanc. On était toute la famille devant la cheminée. Et c'est vrai que ça me rappelle pas mal de bons souvenirs. Quelquefois, on n'a pas trop le réflexe d'aller sur Internet et puis de regarder un album photo. C'est plus sympa. On peut revenir sur la page, on peut discuter, on peut regarder. Je trouve que c'est quand même plus passionnant de regarder un album photo qu'aller sur l'ordinateur.
Oui, ce sont mes photos de ma jeune enfance et mon adolescence aussi. Voilà. Après, il y a mes enfants et les beaux paysages que j'ai pu voir. J'en ai pas vu beaucoup, mais en Corse, il y en a de beaux. Sur la côte normande aussi, bretonne, dans les Alpes. Enfin, voilà, j'ai fait toute la France avec mes parents. Je les ai en papier dans des albums. Oui, parce que c'est tellement éphémère, les photos sur les appareils. Voilà.
Un peu difficile à choisir. Vu mon âge, parce qu'il y a j'ai 4 filles, 4 petits-enfants, et puis les amours de jeunesse qui reviennent aussi sans arrêt dans, en mémoire, voilà. Il y en a une que je retiens, que j'ai transmise à toutes mes filles, c'est la photo que l'on faisait quand on était gamin, tout nu sur les peaux de mouton, quand on était nourrisson. Ça se faisait à l'époque, ça ne se fait plus maintenant. Moi, je suis toujours un peu vieux jeu, si vous voulez. J'aime bien les albums, parce que quand on feuillette un album, c'est autre chose. On regardait une photo avec l'aîné, un album, et à un moment donné, montre un jeune homme torse nu, un peu bien musclé et tout. Et la petite demande c'est qui? Et elle lui répond c'est papa. Et ça a été le coup du regard comme ça. Elle s'est retournée vers moi d'un coup comme pour dire mais c'est pas possible.
C'est trop dur. Oui. En même temps, on sent beaucoup de nostalgie. Et puis c'est le temps qui passe.
Bah une photo, c'est d'abord un message d'amour. Tout le temps. Regardez, ces gens, ils parlent que d'amour. Hein.
Que d'amour, de famille.
C'est évident.
D'enfants.
C'est un message d'amour. Une photo.
D'amour de jeunesse. Ouais. C'est ça. Donc, il faut être un peu, François Desjaubert, amoureux de son sujet, de son cadre.
Bah, bien sûr. Moi, je suis amoureux de mon cadre, je suis amoureux de mes sujets. Vraiment, au moment où je fais l'image, je suis à la fois l'auteur, mais je suis dans l'image. Hein. Donc, non, c'est vrai, c'est tout à fait ça.
Ouais. Et est-ce qu'il y a aussi un côté chasse au trésor, ce petit côté de l'enfance explorateur, lorsqu'on part en montagne, lorsqu'on part découvrir un métier?
Complètement. Alors, ce que je fais, moi, j'essaye de prendre des routes que je n'ai jamais prises. Et je vais à la recherche de quelque chose.
De vous laisser surprendre.
Et voilà, oui, être surpris, c'est quand même très important pour un photographe. Hein. Et donc, souvent, je prends des routes comme ça que je ne connais pas, et en espérant que je vais trouver quelque chose qui va m'étonner. Philippe Castelin, dans son texte, emploie un mot que je ne connaissais pas, qui est le Cairo. Je ne sais pas si vous savez ce que
c'est. Non, moi, je ne savais pas non plus.
Moi non plus.
Alors, maintenant, je sais, j'ai recherché.
Voilà, ben, comme moi. Alors, le Cairo,
des gens comme
les
nous.
Auditeurs, ben, c'est l'instant décisif dont parlait Cartier-Bresson.
Oui.
Cartier-Bresson parlait d'instant décisif, en fait, c'est le Cairo. Le Cairo, c'est un mot militaire grec qui veut dire l'instant précis, c'est-à-dire le moment où on doit frapper. Et c'est une fraction de seconde avant, une fraction de seconde après, c'est fini. C'est extrêmement précis. La photographie, c'est ça.
Mais comment on sait qu'une photo est réussie ou pas? Je sais qu'on vous a posé cette question 25 milliards de fois, mais...
Si je le savais, je ferais que ça. Non, je sais pas.
Non, mais il y a des proportions quand même,
Non, règles. Parce que l'accident joue.
Oui.
Par exemple, dans la photo de couverture du livre, il s'est trouvé qu'à un moment, comme on dit, les planètes étaient alignées. Vous voyez ce que je veux dire?
Bien sûr.
Bon, mais ça, je peux pas l'avoir à chaque fois. Je maîtrise pas tout.
Il y a autre chose qui est important dans ce livre. Vous savez que pour l'histoire de l'art, on sait tous que parfois il faut des années, voire des dizaines d'années pour digérer l'art qui nous est proposé. Mmh. Parfois on n'est pas prêt à bien recevoir sûr, une sûr. Image. C'est pareil en photographie.
Moi j'ai pas cette prétention, j'aimerais. J'ai pas cette prétention-là.
Mais vous pouvez la voir, parce que quand on voit vos photos...
Je sais pas, je me rends pas compte. Mais c'est
le
vrai.
Quai des Martyrs à Bastia, par vrai. Exemple, il y a je ne sais combien ouais. d'années ou...
Mais c'est vrai qu'un artiste, c'est obligatoirement quelqu'un qui doit surprendre. Qui doit dire, bon, ce que vous avez connu, c'était bien, mais maintenant, c'est comme ça. Et ça, malheureusement, ça, c'est pas ce qui va vous donner de la notoriété, bien au contraire. Regardez, Picasso... c'est un exemple vraiment intéressant. Les premiers tableaux de Picasso, attendez, les gens, ils comprennent même pas de quoi il s'agit, quoi. Et à peine maintenant, vous vous rendez compte, 40 ou 50 ans après, on commence, certains, les gens commencent à apprécier ce que c'est. Donc c'est compliqué, là, hein.
Après Aller, vous avez continué hein, à suivre les militants du FLNC. Vous avez même photographié... des gens cagoulés, puisque vous étiez aux conférences de presse. Vous nous avez dit, j'ai arrêté un jour parce que j'étais épuisée. Mmh. Mais est-ce que vous étiez épuisée par la violence, le message ou par l'intensité? Qu'est-ce qui vous a épuisé à un moment donné, François Desjobert?
La première chose, c'est que j'avais l'impression de raconter tout le temps la même histoire.
Il y avait une lassitude.
Ouais. Ça, c'est la plus importante. Et la deuxième, c'est physiquement. C'est-à-dire qu'un jour, je suis tombé par terre, quoi. Aussi bêtement que ça, parce que j'arrêtais pas. Hein. Donc, à droite, à gauche, tout le temps. Donc, et puis, l'adrénaline, dans ce métier-là, c'est fabuleux, mais c'est comme une drogue. Hein. Ça finit par user, quoi. Mmh.
Quelqu'un comme Edmond Siméon, qui avait un physique tout à fait particulier, tout qui fait. Prenait bien la lumière, mmh. disons-le, c'était quelqu'un qu'on avait envie de photographier, outre le fait qu'il fasse partie de l'histoire, de notre histoire de la Corse.
Alors moi, je le vois pas comme ça, mais parce que j'étais dans le bain, vous voyez. Mais c'est vrai que j'ai fait des belles photos d'Edmond. Et en plus, il était charmeur. Donc, non seulement il nous charmait, nous aussi, hein, finalement. Il faut s'en rendre compte.
Dans ce livre, il y a beaucoup de personnes âgées. Il y a des enfants mmh. et des personnes âgées. Pourquoi ?
Je sais
pourquoi
pas.
Ça vous touche particulièrement?
Ben, je ne peux pas vous dire. Bon, les enfants, ça...
Il y a des femmes en bikini aussi. Hein.
Très peu.
Il y en a quelques-unes.
Très peu. Non, mais les enfants, je pense que ça raconte un peu mon enfance. Il y a de mon enfance dedans. Et les personnes âgées, ben, c'est mes parents, je pense. Hein. C'est tous les gens qui ont compté pour moi, quoi.
François Desjobert, on accueille Thomas Brondini. Bonsoir Thomas.
Ah, bonsoir tout le monde, bonsoir à toutes et tous.
On va passer aux choses sérieuses.
On passe aux choses sérieuses, à la musique, puisque Thomas vient toujours avec sa guitare. Tout d'abord, juste un mot pour dire que vous suivez sur les réseaux sociaux l'arrivée de l'exposition de François Desjobert.
Tout à fait, eh oui. Non, je tenais à dire que je vous ai découvert à travers vos photos, puisque sur les réseaux sociaux, à travers Blanc Musique, où vous allez faire l'exposition, j'ai découvert vos photos. Et maintenant, en vous entendant parler et en rencontrant l'homme, je comprends pourquoi j'ai été touché à ce point. Parce que les photos, c'est quand même un prolongement de vous-même. On le ressent vraiment énormément quand on vous entend en parler, de votre travail.
C'est très gentil.
C'est sincère.
Ouais, je m'en doute.
Ouais, bah, c'est ça le cadre. Hein. C'est une fenêtre que l'on ouvre sur sa vision du monde.
Vous voulez que j'y aille ?
Alors vous, d'abord expliquez ce que vous allez faire.
Alors je vais donc faire un mash-up. Je vais chanter une chanson en empruntant les paroles d'une chanson et en jouant la musique d'une autre chanson. La difficulté étant, bien sûr, de trouver les deux. Sinon c'est...
Ah, il faut qu'on trouve...
Il faut qu'on trouve les chansons, wow. Sachant qu'il mélange musique et paroles. Mmh. Michael Andréani, vous êtes toujours là parce qu'on a vraiment besoin de vous. Parce qu'entre François Desjobert... Cécilia Canté, j'osais pas. Et moi-même, on va être très très mal. Hein.
La technique, vous pouvez jouer. Hein. Nous avons besoin.
Vous pouvez nous aider. Simon Guérini à Ajaccio et Doumé Mourati à Bastia.
C'est parti. On y va le premier. Comme un enfant qui voit passer au loin les oiseaux.
Oh là là.
Comme l'oiseau bleu survolant la terre, voit comme le monde est beau. Le monde est beau. Attention, mais. beau le bateau dansant sur les vagues.
C'est Marie Myriam.
Ivre de vie, d'amour et de vent.
Joli, l'oiseau et l'enfant, Marie Myriam,
chanson naissante des vagues, abandonné au sable blanc.
C'est quoi la musique alors? Parce qu'on n'a pas la musique.
Michael, poète.
Michael là.
Ah. Comment?
Amir, longtemps.
Oui,
Amir.
Bien.
Allez, ah, un demi-point pour Cécilia.
J'avais reconnu, mais je... bon, c'est, ouais. C'est pas facile.
Et un très... demi-point pour Mickaël. Moi, je n'avais rien reconnu, ni les paroles, ni la musique.
C'est étonnant. Allez. C'est étonnant. J'enchaîne. Je
c'est
suis
oui,
chaud.
C'est vraiment étonnant. Amir et
Marie-Myriam.
Marie-Myriam, c'est étonnant.
Je ne sais pas comment mon cerveau arrive.
C'était une thématique en vision, non?
C'était vrai. Tout à fait, oui. Il y a toujours une raison, finalement, même inconsciente. On y va. Demandez-moi de combattre le diable. D'aller défier les dragons du néant.
J'ai les paroles, je l'ai hein.
De vous construire des tours, des cathédrales sur des sables mouvants. Demandez-moi de briser les montagnes.
Mickaël à la musique.
C'est quoi?
Manu Indama, Manu Mantine.
Oh.
Le géant de papier, les paroles.
Quand je la regarde.
Pas du tout.
C'est ça?
C'est ça?
Moi l'homme lourd au cœur
oh,
d'acier.
Oui. Il l'avait François aussi, des Jobert.
Manu Indama, Manu Gomekwando.
Alors, un point pour Mickaël, un demi-point pour Cécilia et oui. Un demi-point pour moi.
Ah mon Dieu, il faut que j'enchaîne, j'étais pas prêt.
Allez, une troisième.
J'en profite pour embrasser mes amis les Mantines.
Troisième et dernière.
Attention.
Il va faire chou blanc, François Deschaumères. Oui.
Je me rends compte que ma sélection est très, très, très difficile. Attention.
Et pas ringarde du tout, vraiment.
Non, écoutez ça, alors ça, c'est fort. Uanto d'inverno. Qui pitia le borde.
Ah, j'ai la musique.
Qualcosa qui vient. Qualcosa rugore.
Dimmi Mourini.
Si zante uganto.
Allez, François, la musique.
Oui.
Ah ouais, c'est une fille avec des cheveux épouvantables. Hein.
Pas mal, vous êtes sur la
voyage,
bonne voie.
Voyage, voyage.
Oui, désirless, voyage, voyage. Et le texte, j'ai entendu Mika.
Dimmi
des Mourini. Bien joué.
Mickaël, vous êtes une nouvelle fois le grand gagnant. Comme à l'accoutumée, j'ai envie de dire. Il est à Ajaccio, mais c'est toujours lui qui gagne.
Ah d'accord.
Je ne sais pas pourquoi je dis mais. On a le droit d'être à Ajaccio et de gagner.
C'est pas incompatible, a priori. Voilà.
Surtout pour François Desjobert qui vit à Ajaccio.
Ça fait quand même un peu biscuit, quoi.
Je vais vous remercier toutes et tous d'avoir été avec nous ce soir. Merci François Desjobert d'être venu.
C'est moi qui vous remercie.
Jusqu'au micro d'RCFM, 50 années en images, la Corse. On peut trouver votre livre chez tous les bons libraires et dans certaines grandes surfaces. C'est aux éditions Desjobert. C'est un bijou. Je sais pas comment vous dire, mais on doit tous avoir cet ouvrage à la maison. Vraiment, vraiment. Il y a cette préface qui est très jolie. Il y a votre texte également que je salue. Et puis la sélection de vos photos, 180 photos, un peu plus, et puis 42 lors de l'exposition qui aura lieu donc chez Blanc Musique, à l'espace Blanc Musique, 8 rue Emmanuel Arène à Ajaccio. Et on espère que vous viendrez dédicacer votre livre ici à Bastia et puis partout en Corse, pourquoi pas.
C'est en bonne voie.
Vous êtes heureux?
Oui, assez.
Ah. Nous, on l'est en tout cas. On se quitte en chanson avec un cadeau pour votre épouse, François.
Eh ben, ça me fait plaisir pour elle.
Parce que je salue, voilà, votre couple.
Je pense qu'elle nous écoute.
Qui a démarré avant la photographie.
Ah ben, complètement.
Bien avant.
Oui.
Un heureux hasard dans un petit village.
Oui, à Fontevraud-l'Abbaye dans le Maine-et-Loire.
Eh ben voilà, on l'embrasse très fort. Et puis une chanson d'amour que Thomas a choisie pour vous deux. Au revoir à tous et merci.
Suivant la longue métamorphose qui m'éloigne de mon passé, j'ai croisé une rose qui ne pouvait pas avancer. Pas qu'elle n'ose pas la chose, mais n'y avait jamais pensé. Depuis toujours, tenant la pose, quand les regards l'éclaboussaient, elle a la couleur de l'amour, bien que je ne l'ai jamais croisée. Bien qu'à la lumière du jour, les fleurs sont toutes belles à crever. Alors j'ai mis la route en pause, à ses côtés me suis posé, puisque cette rose semblait morose, d'être seule au jour achevé. Ma rose, ma rose, ma rose, ma rose, écoute mes murmures. Ma rose, ma rose, ma rose, ma rose, tu peux être sûre que tu ne seras plus jamais seule pour franchir les murs. Il y a de la place sur mon épaule pour une rose et son armure. Suivant la course du soleil, avec ma fleur à mes côtés, on s'est raconté nos merveilles et nos tristesses irriguées.
On n'avait pas grand chose à faire, alors on s'est arrêté avec ma rose. J'ai fait la guerre à mon envie de voyager, mais au matin la route appelle, alors je lui ai proposé, si elle osait me faire l'honneur d'avancer à mes côtés. Même si ton armure est trop lourde, bien qu'elle t'ait toujours protégée, sache que la vie est sourde quand elle ne doit pas nous blesser. Ma rose, ma rose, ma rose, ma rose, écoute mes murmures. Ma rose, ma rose, ma rose, ma rose, maintenant je suis sûr que je ne serai plus jamais seul. Pour franchir les murs, il y a de la place sur mon épaule pour une rose et son armure. Traversant tous les bruits du monde, avec ma fleur à mes côtés, me nourrissant chaque seconde de sa douceur, de sa beauté, j'ai croisé un ruisseau immonde qui a cru bon de refléter l'image d'un monstre aux plaies profondes, d'un guerrier triste et abîmé. Comment, comment ma rose peux-tu subir pareille offense à ta splendeur? Et comment puis-je réussir à oublier quelle fut l'erreur de t'arracher à ton jardin à cause d'un vide dans mon cœur? Mais elle m'arrête puis m'embrasse, ma roserie et moi je pleure. Ma rose, ma rose, ma rose, ma rose, écoute mes murmures. Ma rose, ma rose, ma rose, ma rose, tu peux être sûr, je ne serai plus jamais seul pour franchir les murs. Il y a de la place sur mon épaule pour une rose et son armure.
Ah là là, eh ben oui, je filmais en même temps parce que je voudrais filmer ceci, voilà, ce livre. 50 années en images, la Corse, c'est François Desjaubert. C'est un livre absolument magnifique. Merci Thomas Brondine.
Merci, merci beaucoup et félicitations.
Pour ce joli cadeau pour François Desjaubert. Elle était pour vous. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec l'info et avec Jean-Pierre Acquaviva. Au revoir.
France Bleu RCFM.
MMA, interruption spéciale.
Benoît, que se passe-t-il à Guéret ?
Rien, vous savez, Guéret est une ville très calme.
Mais cette imprimerie dont la rotative principale a lâché, ils n'auront pas les moyens de se rééquiper. Ils vont devoir mettre la clé sous la porte.
Mais non, MMA rembourse le montant de la réparation ou le rééquipement à neuf jusqu'à 6 ans après la mise en service. À Guéret, tout va reprendre comme avant. MMA, zéro tracas.
Et zéro blabla. Envoyez la pub.
MMA. Condition en agence MMA.
La plus belle façon de conquérir l'espace, c'est avec les vérandas Rénoval. Rénoval, véranda et extension, l'espace s'invente sur Terre.
Udam Puku Agir Plus d'EDF, a Kuliti Uta di Gorsiga et l'ADEME. L'énergie a une oustro bene, tenimu la compte.
Bonsoir, ravi de vous retrouver.